Bienvenue, nous sommes le mardi 26 juillet, voici les titres de votre journal local avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous. On va parler de finances dans ce journal avec le ministre Yvonique Raffin qui a parlé de la réforme de la PSG au CESEC puis de défense du pouvoir d'achat depuis son ministère. On parlera aussi de tourisme avec enfin des bons chiffres de fréquentation au mois de mai. Et puis on s'intéressera à ce vent de modernité qui souffle sur la culture avec un musée virtuel polynésien, Kevin.
Et on commence par la santé avec la réforme de la protection sociale qui pose question.
Oui, des questions notamment du côté des partenaires sociaux et du CESEC dont le président avait invité ce matin Yvonique Raffin à faire une présentation des réformes en cours de la PSG. Une invitation honorée par le ministre des Finances et de la PSG donc qui a toutefois déclaré en guise de préambule qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait là. Car si la réforme de la gouvernance de la CPS a bien été actée, que les assises de la santé ont bien mis sur la table des pistes d'amélioration du système de santé, la réforme de fond, elle, n'est pas lancée. Le membre du gouvernement a rappelé que c'est le comité stratégique de la protection sociale universelle qui doit formuler des propositions en la matière. Sa composition n'a pas encore été tranchée et sa mise en place ne se fera pas avant le 1er septembre, a expliqué Yvonique Raffin. Quant à l'unification des régimes, elle ne sera terminée qu'au 1er janvier 2024. Autant d'informations qui sont normalement connues des partenaires sociaux, dont beaucoup, comme Jean-Pierre Godefrin, représentant de la FGC et du patronat, restent sur leur faim. Écoutez.
Pour l'instant, on est un peu dans le vague. Hein. On pensait qu'on aurait plus de précision sur les réformes profondes, sur les réformes structurelles. Quelles sont les économies qu'il compte faire? Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle ce que le changement de structure, c'est-à-dire le fait de passer par branche, va apporter une amélioration au niveau des assurés ou non? On n'en sait rien. Il a répondu qu'il n'en savait rien, ce que je comprends un peu compte tenu de la conjoncture économique actuelle, mais on n'a pas plus d'informations qu'avant.
Alors faut-il voir dans ce grand oral du ministre un début de résistance à la réforme à venir? Les partenaires sociaux en tout cas s'en défendent. Le ministre lui a seulement rappelé que le financement de la PSG repose principalement sur les salariés et l'alternative, a-t-il précisé, c'est l'impôt.
Et Yvonique Raffin était aussi sur d'autres fronts ce matin.
Et oui, le ministre des Finances, aussi en charge de l'économie et de l'énergie entre autres, a animé un point presse il y a quelques minutes pour parler notamment de pouvoir d'achat. Caroline Perdry, vous êtes sur place.
Oui Charlie, bonjour à tous. Yvonique Raffin et le ministère des Solidarités ont annoncé la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire qui sera versée cette semaine et la semaine prochaine. Une augmentation de 3000 francs qui va bénéficier à 60% des élèves du primaire au niveau post-bac. En outre, il y aura aussi une extension de l'aide vestimentaire jusqu'ici réservée aux ressortissants du RSPF et du RNS. Sous condition de ressources, les ressortissants du RGS vont également en bénéficier. Total de la dépense pour le gouvernement, 206 millions de francs. Il y a eu également d'autres annonces. Le ministre a annoncé un accord avec les transporteurs pétroliers qui vont bloquer leurs tarifs jusqu'à la fin de l'année. Malgré tout, il faut s'attendre à une hausse des tarifs d'été avant le 1er septembre prochain. Les négociations sont en cours.
Merci Caroline Perdry en direct du ministère des Finances et de l'Économie. Vous pourrez bien sûr retrouver toutes ces annonces sur notre site internet radio1.pf.
On reste dans l'économie avec enfin des bons chiffres pour le tourisme.
Et oui, à force de parler de reprise, elle finit par être là. L'Institut de la Statistique a dénombré en mai 19 000 touristes débarqués à Tahiti Faa. C'est 180 de plus qu'en mai 2019 et c'est la première fois que les chiffres de fréquentation dépassent ceux d'avant crise. Plus 1%, le bond n'est pas gigantesque, il faut le relativiser. C'est en fait l'hébergement flottant, la croisière, mais surtout le yachting qui réalise de très bons chiffres. Le secteur terrestre, les hôtels donc, reste toujours en retrait de 5%. Par rapport à l'année de référence. Autre nuance à apporter à ce succès, sur une année pleine, 2022 n'a aucune chance d'atteindre les records de 2019. Après un premier trimestre toujours très marqué par les contraintes et les craintes de la pandémie, l'ISPF note toutefois que les touristes originaires d'Amérique du Nord et de France métropolitaine sont plus nombreux qu'en 2019. Le reste de l'Europe reste à la traîne, moins 9% en mai, et surtout certains marchés émetteurs, les marchés asiatiques mais aussi ceux du Pacifique, sont toujours quasi inexistants.
Carnet noir maintenant avec la disparition de Guy Rozy.
Oui, c'est le président Édouard Fritsch qui a confirmé ce matin le décès du Hakaï Kinoui à l'âge de 89 ans. Engagé dans la politique marquisienne dès 1968, Guy Rozy avait été maire de Hivaoa de 1972 jusqu'à 2008, un siège aujourd'hui occupé par sa fille Joëlle Frébeau. Il a fait de sa commune l'une des plus dynamiques de Polynésie, écrit le président du gouvernement, mais sa carrière va bien au-delà de la terre des hommes. Il avait notamment été membre fondateur du syndicat de promotion des communes de Polynésie, le SPC qu'il a présidé pendant de longues années. Guirozzi avait aussi été élu à l'Assemblée pendant près de 30 ans et au cours de cette longue carrière, il avait été promu chevalier puis officier de la Légion d'honneur et puis commandeur de l'ordre de Tahiti Nui, c'était en 2020. Édouard Fritsch a salué la mémoire d'un grand serviteur de la Polynésie.
On finit par de la culture avec un premier musée virtuel polynésien.
Oui, il a seulement quelques jours d'existence. À l'origine de ce projet, Jacques et Guillaume Janoyer, père et fils, spécialistes de la modélisation 3D, une technique qu'ils ont voulu appliquer au patrimoine polynésien. Dans leur Fare Afera, musée virtuel accessible via un site internet, on trouve déjà quelques objets et sculptures reproduits en 3D. Et l'objectif est bien sûr de faire grandir cette collection, accessible à tous et gérée sous forme associative. Un devoir de mémoire, explique Guillaume Janoyer, qui s'est orienté vers la technologie 3D après des études d'architecture au Canada. Pas de surprise donc si le nom du musée Fare Afera fait référence à l'origine du temps et au caractère éternel des choses. Écoutez.
Le fait de scanner un objet, c'est comme si tu prenais une photo de cet objet. Tu peux tourner autour, tu peux aller très très près, très très loin, tu peux faire des reproductions. Et ce modèle 3D ne changera jamais, il se détériorera jamais. Dans 500 ans, dans 1000 ans, il sera toujours le même. Mais l'objet physique, le matériel, lui, il peut se dégrader, il peut être perdu. Donc le fait d'avoir ce modèle 3D, une copie virtuelle, ça permet de le conserver ad vitam aeternam.
Voilà, tiki, marae, sculpture, absolument tous les objets, même les sites, peuvent être immortalisés grâce à cette technologie. Les applications ensuite sont multiples. Impression 3D de répliques d'objets uniques afin de les conserver et de conserver leur localisation secrète. Mise en contexte virtuel. Impression de supports papier aussi, à but pédagogique pour les scolaires. C'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup dans le monde, mais qui n'existait pas encore au Fénois. Et l'avantage, c'est surtout que le processus n'a aucun effet direct sur l'objet scanné.
On a appris à peu près il y a un an à faire du scan en photoscan et en laser scan. Donc on arrive à avoir des modèles 3D très très précis pour notre travail en 3D d'architecture. Le photoscan, c'est une photo. On prend l'objet sous tous les angles. Et le laser scan, c'est une technologie qui permet de refaire la surface du modèle 3D sans la toucher. C'est de la lumière en fait. Le laser scan refait la surface et le photoscan refait la couleur.
Et pour remplir le musée virtuel, Guillaume et son père veulent travailler avec les autorités culturelles, avec les collectionneurs, pourquoi pas, et les passionnés. Pour donner un sens à leurs images, ils comptent faire appel à des scientifiques avertis, tels que des archéologues ou des historiens, pour connaître et diffuser le contexte de ces objets du patrimoine. Le but des deux artistes n'est pas de tirer un profit de ce Fare Afera, mais tout cela a tout de même un coût. Les deux fondateurs espèrent donc attirer l'attention de mécènes pour financer le musée. Leur site internet, lui, est déjà fonctionnel. Rendez-vous à l'adresse lemuseevirtuelpolynésien.com, tout attaché. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le retour de l'info, ce sera à 16h et ce sera avec Caroline Perdry.
Merci beaucoup, Charlie.